Rebonjour chers auditeuristes, c'est Camille alias Miu Tatou sur Radio FM Plus 91 FM et je reviens ce mois-ci avec une nouvelle interview du groupe de métal Eiga. Souvenez-vous, nous avions interviewé la dernière fois Simon et Matteo. Cette fois, et toujours en plein océan à bord de mon navire, je m'apprête à plonger de nouveau avec les deux autres membres du groupe que je présenterai dans un instant. Le groupe Eiga vient de revenir d'une tournée. Ils ont fait ce mois-ci les villes de Tours, Bordeaux, Montpellier et Marseille. Si jamais vous les avez ratés, il est temps de ne plus hésiter à les suivre sur Insta, @eiga-mtp pour voir leurs actualités. Je vous avais proposé de mieux les connaître, découvrir quelques traits de leur personnalité. Nous avons eu pas mal d'infos de la part de Simon et Matteo le mois dernier. J'ai donc cette fois trouvé d'autres idées à étudier avec eux, notamment vous inciter à découvrir leurs clips et leurs morceaux sur YouTube et évoquer à travers une série de questions leur création, certes musicale, mais aussi visuelle, et comprendre leur message. Les deux autres membres du groupe sont actuellement avec moi. Sur mon radeau, j'ai attrapé aujourd'hui un joli poisson exotique dont le nom scientifique est littéralement imprononçable. J'utiliserai donc son nom commun, la demoiselle Bleu Ciel, alias Emric, le chanteur du groupe. Un poisson de couleur bleue avec un ventre jaune, dans le seul but de symboliser que cet homme en a dans le ventre. Ça te plaît ? Emric est accompagné bien sûr de son acolyte que j'estime beaucoup en tant que guitariste et que je félicite pour sa performance vocale sur les chœurs dans le clip et le morceau Anima, où je compare sa voix à celle du chant des baleines, en d'autres termes extraordinaire. Ça te plaît aussi ? Salut les gars, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle émission avec moi ?
On est chaud. Nous sommes ici présentement très chaud. On espère que le bruit des marteaux tapisse un petit peu l'univers sonore derrière nous, que ça amène un petit peu de mesure asymétrique. N'est-ce pas, monsieur Debout ?
On est en plein Montpellier avec les travaux montpelliérains qui caractérisent cette ville depuis, 10-15 ans. Donc finalement, on est en plein dedans. On est dans l'actualité montpelliéraine.
Effectivement, j'ai un très bon technicien qui peut faire un très joli nettoyage sur ce plan. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu cette dernière tournée d'octobre ? J'ai cru comprendre que ça avait été particulièrement fatigant. Et avec quel groupe vous étiez et comment ça s'est passé pour vous ?
Non, c'était pas du tout fatigant. J'ai juste été à deux doigts de l'extinction corporelle et mentale. Mais ça, c'est parce que je suis faible. Sinon, les autres, ils l'ont bien vécu. Moi, j'avais plus de mal. Je pense que j'étais malade. Voilà, le truc de chanteur, hein, toujours pas bien. Toujours qu'il y a des petits problèmes de voix, machin. Mais sinon, ça va. Et on était avec Eyes Sealed Eyes et un très bon groupe. On a vraiment très bien matché avec eux. Voilà, dans l'ensemble, c'était très, très, très bien. Moi, il y a eu deux dates que j'ai vraiment aimées, c'était Bordeaux et Montpellier. Et puis voilà, hein, Sam, toi, t'as plus proche. Tu veux que je me colle encore plus. Mais là, je te sens, là, quand je me colle encore plus du micro, là. Ah ouais, là, on y est, là. Tiens, d'ailleurs, je te passe le micro, tiens, fais voir comment tu fais.
Et du coup, moi, pour la tournée, c'est vrai que ça a été moins, je trouve, fatigant que la première, vu qu'on n'a pas enchaîné 5 dates d'affilée, ce qu'on avait fait en avril-mai, dans ce coin-là. Et on était quand même un peu plus rodés, très gros travail de la part de Chris, notre ingé son. Et c'est vrai qu'on a été à chaque fois bien accueillis dans les salles dans lesquelles on était. On avait moins de gros déplacements comme on avait fait il y a 6 mois de ça. Et c'est vrai que les automatismes, ça se voit qu'on commence à rentrer dès qu'on arrive sur les dates. On perd moins d'énergie à aller à droite à gauche pour pouvoir préparer tout le matos, que tout soit prêt. On va directement à l'essentiel. Et ça, c'est à force de tourner, à force de faire des dates, à force de côtoyer des gens qui nous accueillent, qui sont ultra pros, comme certaines dates, par exemple à Paloma, où on est vraiment bien pris en main par des gens comme Adrien qui nous drive là-dessus pendant les résidences. Et on voit les automatismes à avoir. Et c'est vrai que ça règle pas mal de petits soucis dans l'engrenage quand on arrive sur les dates. Donc là, ça roulait terriblement bien. Et c'est vrai qu'avec Sealed Eyes aussi, c'était vraiment le feu. très bon groupe belge et qui est rempli aussi d'ingé-sons dans le groupe, donc qui font droite à gauche, qui sont ingé-sons façade pour des groupes là-bas. Et donc, c'est vrai que de tourner avec des groupes où ça roule comme ça, c'était un vrai régal. Donc voilà, la fatigue pas trop, l'efficacité c'était hyper cool, le public était au rendez-vous. Et ça faisait bien plaisir. Donc, vivement les prochaines dates et on arrivera avec du nouveau en plus, donc ça c'est cool.
Ok, merci. Est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous rappeler ce que vous faites en dehors du groupe et des concerts ?
Alors, moi je suis kiné, non loin d'ici. Et d'ailleurs, Tom peut en témoigner. Et sinon, là, on va monter notre cabinet avec Simon, l'huître de Bamako. C'est ça, non ? C'était ça son... Non, c'est pas ça. L'électrique, il y avait un truc électrisant, l'anguille électrique. Et du coup, ça sera, à côté, pas loin du quorum. Voilà, on va ouvrir notre cabinet. Voilà, je dis ça comme ça. Et Samito, tu veux répondre à ta question ?
Donc, moi, je suis pas du tout dans cet aspect-là, malheureusement, même si j'aimerais être un peu plus dans l'activité physique. Mais non, moi, c'est ingé son et sound designer de... Disons, à l'origine. Et après, ça s'est décliné en composition, prise son sur les tournages, mixage studio et live. Pas mal de live en ce moment. Là, je vais tourner avec les Gypsies à l'international en mois de novembre, sur 3 dates. Donc, ça, c'est plutôt pas mal au-delà de l'expérience, mais c'est au niveau du style qui est vraiment génial à mixer. C'est un vrai régal humainement aussi, j'en parle pas bien sûr. Et ça s'est décliné sur la partie audiovisuelle, au niveau tournage. Donc, je suis bien équipé en matériel de prise de vue. Et c'est vrai que je me régale à faire les clips d'Aïga, déjà, ça c'est sûr. Mais de faire surtout de clips de musique, puisque j'adore le lien entre le son et l'image. Et en clip de musique, vraiment, on est bien dedans.
Ok, parfait. Je suis donc avec Aymeric, le chanteur, et Sam, le guitariste, chers auditeurs. Ma prochaine question s'oriente sur leurs traits de personnalité. Que pourriez-vous nous dire sur comment vous vous percevez ? Qui étiez-vous et qui êtes-vous devenu ?
Waouh ! Qui étions-je, ouais, avant de me rencontrer ? Qui je suis ? Je peux dire ce qu'on dit souvent de moi. En général, j'ai des retours assez fréquents de gens qui me disent que je suis assez froid de premier abord, et puis qu'après, en fait, je suis très gentil, que je suis plutôt lunaire, voilà, en comparaison au soleil de Simon, voilà, moi je suis un peu plus astral, voilà, c'est ça. Après, moi je me perçois comme... Quelqu'un de plutôt posé, routinier, organisé. Voilà. Toi, non, c'est pas ça ? Toi, tu me vois dans l'inverse ? Ah oui, oui. Donc, moi, voilà, comme ça. Après, je débriefe pas souvent de moi, donc, y a rien qui me vient là comme ça spontanément. Mais j'aime bien tous les projets. Je suis un homme de projet, je dirais même. Et puis, c'est ça qui me motive en fait à toujours aller vers l'avant. Mais le problème avec ça, c'est que parfois je me prends pas trop de temps pour me poser. Et donc, même ça, j'essaye de le planifier. Le moment chill, c'est planifié dans mon calendrier. Qu'est-ce que j'étais avant ? On peut dire avant de rencontrer Sam et Matteo, j'étais quelqu'un qui voulait faire de la musique, mais qui savait pas trop ce que c'était. Parce que moi je viens pas du tout de la musique, mes parents font pas de musique, dans mon entourage il y a pas trop de musiciens, et donc quand j'ai rencontré Sam, il m'a dit voilà, ceci est la musique, retourne travailler et on se revoit plus tard, mais voilà, et arrête la guitare, il m'a dit tout de suite, pose cet instrument là, tu ne sais pas ce que c'est.
Très bonne intro pour moi, c'est bien. Aïga, ce qui a eu un vrai changement chez moi. En fait, avant Aïga, j'avais arrêté mes groupes, ça faisait pas mal de temps. J'en avais quelques-uns il y a une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que j'ai réduit quand même la voilure là-dessus parce que, en fait, à vouloir faire énormément de techniques pour le groupe, c'est vrai que je me sentais un peu trop utilisé par les formations où j'étais. Je me suis dit, c'est pas très grave, hein, c'est juste que les gens ne captaient pas tout ce que je faisais pour que le groupe tourne. Et comme c'était aussi mon métier en même temps, j'avais un peu de mal à capter ce qui était mon métier, ce qui était ma passion et mon côté détente avec les autres groupes. Donc, en fait, j'ai préféré juste produire et faire du mix avec des groupes où j'étais pas. Et c'est vrai que j'avais toujours ce manque de la scène. Je me rappelle une fois où j'ai fait juste aux balances, j'ai fait les balances de la basse dans un groupe que j'avais mixé. Et c'était au Rockstore. Et en fait, le kiff de pouvoir entendre un peu de son de scène, je me disais, merde, ça serait quand même bien de refaire ça un jour. Et donc, voilà, le retour à cette vie-là, de refaire de la répète, de refaire de la résidence, de préparer le matos, de composer, de réarranger et tout, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'avait quand même pas mal manqué sur des projets compo originaux. Parce que aussi, c'est un peu le gros guillemet sur la facilité de faire de la reprise. C'est tout aussi cool. C'est juste, c'est pas le même créneau. Mais disons que pour en vivre, c'est quand même beaucoup plus dur de faire de la compo et de partir de rien. Et c'est vrai que là, le défi était très grand de faire ça. Et comme Aymeric disait, on est des hommes de défi et des hommes de projet. C'est un joli projet, ce groupe-là. Il nous amène pour l'instant à chaque fois à des steps qu'on cherche vraiment. Il nous amène pas totalement dans l'inconnu. On sait à peu près là où on va. Bien sûr, on aimerait que ça aille plus vite, logiquement. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment progresser d'un point A à un point B, et c'est quelque chose qu'on veut vraiment. Donc cette progression au niveau de la personnalité, en fait, elle va avec l'évolution du projet. Et ça, c'est quand même satisfaisant de voir ça, quoi. On n'est pas trop dans l'inconnu, et puis on n'est pas trop surpris de ce qui se passe. Donc là maintenant, si tu me vois maintenant aujourd'hui par rapport à c'était juste post premier confinement quand on s'est rencontré, donc ça fait maintenant 4 ans. Il y a ce plaisir de retourner à la scène, le fait d'être un peu plus à l'aise avec de la compo et de faire découvrir des morceaux à un public qui connaît pas les morceaux, parce que moi je faisais beaucoup de reprises quand même à l'époque, donc ça c'était aussi nouveau pour moi de pas avoir peur du regard des autres quand tu vas leur jouer tes morceaux et ouvrir ton cœur. Ça commence à aller mieux. C'est vrai que la première Paloma qu'on a fait, c'était notre 3e ou 4e concert, c'est très intimidant et ça fait peur de pouvoir se livrer face aux 1000 personnes qu'il y avait juste avant McFly et Carlito, hein. Et ça, c'est vrai que ça a amené une assurance face au public que moi j'avais pas du tout. Il y a rien qu'à voir les premières images du clip qu'on a fait la toute première fois, qui est jamais sorti sur fond vert, où j'étais pas très coincé, mais c'est qu'en fait j'avais pas l'habitude de juste m'exprimer sur scène, et maintenant c'est quand même bien différent. Donc, grande évolution. Et puis après, bien sûr, en 4 ans, il s'est passé plein de choses. Moi, depuis, je suis papa. Il y a 1000 trucs qui se sont passés. Donc, voilà, la vie change, pas avec Orange, mais avec mon fils, qui s'appelle pas Orange.
dis-moi, Aymeric, depuis quand chantes-tu et à quel moment tu as décidé de rejoindre du coup Eiga? Il me semble que tu n'as donc pas toujours été dans ce genre musical. Et comment tu en es arrivé là, du coup? J'imagine que c'est avec Simon en plus.
Ça a commencé déjà. Je voulais faire un peu. J'ai toujours voulu faire de la musique, mais je savais pas trop comment. Et en gros, Simon m'a proposé de devenir chanteur de son groupe. Et je savais absolument pas. Enfin, si je savais chantonner, on faisait des reprises des frérots de la Vega. Voilà, pour les connaisseurs. Et on est parti de là. On faisait de piètres harmonies. Et comme toujours. Pour ceux qui viennent au live, hein. Et puis ensuite, moi j'aimais pas du tout le métal. Lui en plus, il adorait Bring Me the Horizon, sorry for my accent, et BMTH, ouais. Et il adorait ces groupes-là. Moi, je comprenais pas du tout. Et un jour, j'ai rejoint le groupe. On a commencé à faire de la pop rock comme Muse, des trucs comme ça. Bon, très mal chanté, hein. Je suis pas Mathieu Bellamy, mais en tout cas, ça, j'ai bien accroché au délire du groupe, de cette idée d'avoir un groupe, de répéter, de se produire. Et en fait, on est parti de là, et c'est de là qu'est né le groupe. C'était un groupe de cover, et puis, moi, je me suis entraîné depuis, et j'ai commencé après à screamer dans ma cabine pendant le Covid. Et je faisais ça pendant 5 minutes, parce qu'après, je pouvais plus parler. Et j'ai répété ça de nombreuses fois, et jusqu'à ce que je découvre les tutos sur Internet. Et puis j'ai rencontré des gens, notamment Gaëtan, qui était notre bassiste et qui est chanteur de Spleen, qui m'a donné pas mal de conseils. Puis après, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait ma petite expérience. Et là, j'ai pas fini du tout d'apprendre cet instrument qui est super galère, mais qui est trop bien aussi. Et voilà.
Sam, tu es donc aujourd'hui papa d'un petit garçon. Je te souhaite que du bonheur. Comment est-ce que tu gères ton travail, justement, ta vie de famille et du coup le groupe en même temps? T'as un peu répondu, mais si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas.
comment dire à quel point c'est le bazar? Mais c'est mon style de vie qui est aussi le bazar. C'est que, en fait, je fonctionne malheureusement par urgence. Et le truc le plus urgent, c'est le truc sur lequel je vais me mettre. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et après, c'est vrai que là, de sa naissance jusqu'à ses 3-4 mois, c'était une attention de tous les jours, toutes les heures, toutes les nuits. Donc, manque de sommeil comme jamais. Pourtant, déjà, j'étais quelqu'un qui travaillait de nuit, c'était pas un problème. Mais ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie, clairement. Les gens pour qui ça se passe bien, je prie pour eux et je suis ravi pour eux. Et je veux absolument que personne ne ressente ce que les gens qui ont connu des galères et les galères médicales ressentent, parce que c'est infernal. Donc, et surtout que personne ne peut comprendre. Et tu as toujours quelqu'un qui, tu vas croire, qui va dire « Ouais, je comprends, ça doit être dur ». Non, non, non. Et tous les enfants sont différents. Et même s'il y en a qui ont connu des galères, des trucs, personne ne peut comprendre. Mais c'est comme les grossesses, elles sont toutes différentes. Même s'il y en a qui ont vraiment connu des galères, et peut-être pire, mais comment la femme va le prendre, l'interpréter, ces galères-là, ça peut être différent. Donc, ça ne se juge pas. Et en fait, ça fait prendre conscience d'une espèce d'empathie qu'il faut absolument... Envers ces gens qui ont des galères comme ça. Et c'est vrai que quand tu dois gérer la partie travail, donc parce que je suis indépendant, et expliquer pourquoi tu es en retard. Parce que tu peux difficilement expliquer quand c'est la 50e fois que tu dis je suis papa, en fait, c'est une galère, et que les gens disent moi aussi je suis parent, c'est pas une galère comme ça. C'est une espèce de culpabilité presque à être parent, et c'est très particulier à vivre. Disons comment je le gère. Là, il va faire un an dans quelques jours. La vie commence à reprendre là depuis un ou deux mois. Sinon, le reste, ça a été juste un cataclysme. Et je l'aime de tout mon cœur comme jamais. Mais le fait d'être parent, c'est vrai que c'est... Euh, Il n'y a pas de tuto. Le fait d'en discuter avec les gens, ça ne sert à rien. Il faut juste le vivre et on comprend ce qui se passe. Mais par contre, dès que je regarde mon enfant, il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Donc c'est juste incroyable. Ça vraiment, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, l'organisation de vie est très compliquée. Mais j'arrive quand même à donner du temps à Ega. Malgré mon travail, hein, parce que moi je suis sûr que s'il n'y avait pas Ega, peut-être que je bosserais plus, hein. mais surtout qu'on va passer en enregistrement et que ça va être long et tout, mais ça fait partie des très gros projets de ma vie et qui sont, c'est sûr, moins importants que la famille, parce que la famille, voilà, mais en même temps, pour moi, c'est la famille que tu choisis. Tu vois, ça reste des gens avec qui on va pas. Enfin, je savais quand je me suis engagé que j'allais partager des choses pendant plusieurs années. Et c'est pas juste, on va prendre un café. Non, c'est on va se côtoyer pendant des années. Et peut-être que quand on sera vu, on dira putain, tu te rappelles quand on avait 30 balais, dis donc, il y avait Mathéo qui était encore en vacances. Et on avait 7 de moins et même plus que ça pour nous. Et que nous, on est tous les deux les vieux du groupe, entre guillemets. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de particulier à gérer, que nous, tous les deux, on a 34 balais, que Mathéo, il en a 10 de moins, et ça fait partie des choses. Mais en fait, ça nous donne une force très particulière au niveau de ce qu'on essaie de mettre à disposition au public et le kiff qu'on donne, quoi. Donc voilà.
Toujours Sam, mais Aymeric pourra répondre aussi. Dans mon souvenir, tu es quelqu'un d'extrêmement ouvert aux genres musicaux différents et existants. Tu t'intéresses et tu vois large sur tout ce qui peut visiblement t'inspirer. Comment travailles-tu ? J'imagine que c'est des concepts de recherche sur vos inspirations, que ce soit sur le plan large ou sur le plan plus précis. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Ton travail de recherche, en l'occurrence musicalement, et qui te permet justement de t'inspirer.
C'est assez compliqué et facile à répondre parce que en fait, il faut le voir pour se rendre compte à peu près comment je bosse. Au bout d'un moment, voilà, je compose et je parle plus à personne et je passe dans une espèce de transe parce que je me sens. On va vraiment avoir l'impression, là je vais parler comme un hippie, mais c'est vraiment le côté habité par la musique. Et en fait, je dis quelque chose assez souvent et je le pense vraiment par rapport à tout ce qu'on vit, que ce soit la vie, la guerre, les amitiés qui partent en live, les gens qui se trompent, etc., etc. La musique, pour moi, c'est quelque chose qui ne me trompera jamais. Et c'est mon ami qui restera du début à la fin avec moi et qui me met à l'épreuve, qui me fait vivre des choses que personne d'autre ne me fera vivre. Et en fait, là, je suis justement en manque en ce moment, mais c'est le fait d'être en lien avec la musique et la composition où tu oublies tout, tu oublies les heures, tu oublies tout ce qui se passe. Et en fait, tu cherches des plans, tu mets en relief des mélanges de notes, des mélanges d'instruments, des mélanges de timbres. Et en fait, c'est pour ça que je ne parle pas de style de musique encore. C'est que pour moi, je vais chercher ce qui va me faire, entre guillemets, lever le poil. Donc vraiment le frisson, de ressentir le BPM qui augmente et tout. Et le fait que je me sens partir dans la créa musicale. Et en fait, où je me dis, putain, là, il se passe quelque chose, et je commence à fouiller là-dedans. Et les inspirations qu'il y a là-dedans, j'ai jamais vraiment bossé avec d'autres compositeurs. En tout cas, dans ce que je fais, j'ai déjà vu des mecs bosser, mais c'est pas ça qui m'a formé. Je me suis formé tout seul en faisant de la musique, et voilà. Et c'est en testant mille choses qu'au bout d'un moment les étoiles s'alignent dans ta musique et il se passe un truc au niveau de l'émotion. Et moi, c'est plus ça que je vais chercher, c'est l'émotion, le fait que tu as envie de bouger la tête, que tu as envie de vivre le truc. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Même si des fois, je me prends la tête à faire des mesures asymétriques, des petits trucs un peu stylés pour que, en fait, la personne qui ne connaît pas la musique, enfin qui est, disons, qui est amatrice, ne comprend pas techniquement ce qui se passe, mais qui voit qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre. Et ça, il y a des groupes de jazz rock, des groupes comme Museb, comme là, plus récemment maintenant, il y a Snarky Puppy qui fait ça, où en fait, tu as plein de gens de tous les horizons, et des gens qui ne connaissent pas la musique, qui adorent, et tu as des gens qui techniquement adorent aussi, mais pour des raisons où en fait, on hallucine parce que les mecs, c'est que des monstres. Et ça, c'est ce que j'aime dans la musique, c'est de ne pas rechercher absolument la technique, mais que la technique puisse donner quand même des émotions particulières que tu pourrais pas avoir avec juste un 4-4 binaire simple. Et je prends l'exemple par exemple des mesures en 5-4 comme Mission Impossible. Mission Impossible, on se dit pas que c'est quelque chose d'un peu particulier. Et pourtant, Mission Impossible, le thème, c'est un 5-4 qui donc, quand tu commences à le détailler, tu dis, non, mais c'est compliqué en fait. En fait, quand tu le calcules pas, juste tu kiffes et point quoi. Donc c'est là où c'est intéressant. Donc la recherche et les inspis, c'est la vie, l'état dans lequel je suis, et puis c'est parti quoi.
Je vais vous poser la même question qu'à Matteo et Simon. Quand Eiga est né, comment se sont passées vos premières répétitions et quels souvenirs vous en avez gardés ?
Première répétition, c'était au studio avec tout le monde. Oui, parce qu'au début, on n'avait pas le même batteur, on avait un autre batteur. D'ailleurs, on le salue, hein. On espère qu'il est dans le rythme. Nous quatre, notre première répète, ça. C'était peut-être à Paloma, dans parce que j'ai un souvenir de répète dans le studio jaune, tout petit studio là qu'on. Et je me rappelle que Matteo il me disait mais arrête tu cries trop là, t'es en répète il faut que tu te gères. Et ben il avait raison hein. Et ouais. Capitaine Obvious, il avait raison. Non, mais ouais, c'est ce souvenir-là, peut-être que je criais trop et Matteo qui me dit ça. Et puis sinon, non, j'ai pas de. Non. Mais je me rappelle que c'était dur, hein, que c'était pas trop du plaisir parce que j'avais plein d'appréhension. C'était que du matos que je connaissais pas parce que Sam, il nous avait mis au retour. Enfin, on a des in-ears, on s'entend. On peut régler avec le téléphone chaque instrument de chaque personne dans le groupe. Et du coup, bah, ça déjà, fallait que je me familiarise avec ça, fallait que je me familiarise avec le fait que j'économise ma voix, que je savais pas à l'époque que je devais faire différemment entre le studio et la répète. J'utilise pas les mêmes placements justement pour avoir un peu plus d'économie. Et donc voilà, c'était un peu dur, mais très très bien.
Et ben moi, j'essaie de faire un espèce de flashback. De me rappeler déjà quand c'était. Je suis à deux doigts d'aller checker sur le téléphone pour voir, mais j'essaie de me rappeler aussi au niveau du matos, parce qu'à l'époque, on faisait matos commun avec Exodust. Et donc... mais c'est ça, on faisait matos commun avec Exodust, ça veut dire qu'il y avait le Kemper de Paul. Donc c'était... On mélangeait nos deux matos avec les deux groupes, et donc c'est il y a très longtemps... Et j'ai aucun souvenir de comment ça s'est passé. Mais de toute façon, les premières répètes, c'était quand Matteo est arrivé. Il y avait déjà des morceaux qui avaient été composés. Donc, c'est en fait, je crois que la première répète, ça a été d'arriver juste à se connaître les uns avec les autres et de voir ce qui était possible à faire parce qu'on avait quand même déjà pas mal bossé en studio. Et donc en pré-prod et avec des batteries programmées, etc. Et à cette époque-là, mais il y avait Gaëtan déjà. Il y avait Gaëtan. Et donc ça aussi, ça a été Gaëtan de s'approvisionner son nouvel instrument. Donc, à mon avis, si on a un enregistrement de cette répète, il y a moyen de rigoler. Ça devait être une catastrophe. Mais en même temps, c'est comme ça sur les premières répètes d'un groupe pour juste commencer à connecter des liens entre ce qu'on a fait en studio où c'est facile et après quand il faut jouer ensemble. Quoi.
On n'aura, je pense, pas le temps en fait, de parler des clips dont j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on fera une autre émission, je pense, si vous le souhaitez. Ok. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mon ressenti personnel sur la précédente émission. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans le podcast. Je peux vous faire mon retour de concert qui a eu lieu sur Montpellier le 11 octobre, durant votre tournée. Pour moi, c'était encore autre chose que le tout premier concert auquel j'avais assisté il y a quelques mois, durant lequel le A-Gang remettait le pied à l'étrier. J'ai un peu plus bougé pour le coup, ce concert était encore meilleur et je me suis franchement éclatée devant le caisson et la scène et j'étais clairement pas la seule. Chers auditeurs, si vous appréciez le métal et si vous ne connaissez pas le métal hardcore que propose le groupe Eiga, je vous suggère vivement de venir découvrir et vous faire saigner les tympans avec ces jeunes Montpelliérains en concert. Retrouvez-les encore une fois sur YouTube ou encore sur leur compte Insta, @eiga-mtp pour venir les encourager. Ils sont hyper sympas et accessibles. Merci à Iga, à Sam, à Emeric d'être venus sur cette émission. C'est le moment de rejoindre mon navire trois mâts et de relâcher notre super baleine et notre demoiselle bleu ciel dans leur élément. Je leur souhaite de surfer sur les vagues houleuses de leur public et de les transcender. À bientôt peut-être pour une future interview avec ces messieurs. C'était Miu Tatou sur Radio FM+, 91 FM.